Bonsoir à tous. Donc on va continuer dans notre agrandissement des différentes structures qu'on est en train d'étudier. Donc on avait commencé au début par un seul astre, la Terre ou le Soleil. Après on est passé au système solaire, on a vu la fois dernière les différents types de systèmes planétaires qu'il pouvait y avoir. Et puis là on monte encore d'un cran, les regroupements d'étoiles, le premier type de regroupement d'étoiles, les galaxies. Alors je vais parler des galaxies en général, mais beaucoup de la nôtre, donc de la Voie lactée. Alors les galaxies, donc c'est des regroupements d'étoiles, vous en avez un exemple ici. Voilà, mais en fait il y en a tout un tas d'exemples. Alors c'est les plus spectaculaires sont justement ce qu'on appelle ces galaxies spirales, parce que évidemment vous avez des bras en forme de spirale. Vous avez des spirales un petit peu déformées comme ça, qu'on appelle spirale barrée, où il y a une barre qui se place avant que les bras commencent à s'enrouler. Et puis vous avez tout un tas d'autres sortes. Vous avez des galaxies qu'on appelle elliptiques, parce que simplement elles sont en forme d'ellipse, où on voit pas de bras. Et puis vous avez aussi des galaxies qui n'ont pas de forme particulière, comme par exemple ici le grand nuage de Magellan. Donc le grand nuage de Magellan, on en reparlera un peu plus longuement dans la suite. Alors, on en revient à la Voie lactée. Donc la Voie lactée, nous, on la voit de l'intérieur, puisqu'on est dedans. Et c'est ce que vous pouvez voir en été en particulier. C'est une espèce de... Ça se voit très bien, alors qu'il faut être un petit peu loin des lumières des villes. Vous avez une espèce de traînée blanchâtre dans le ciel. Et c'est la Voie lactée qui est vue par la tranche. Donc c'est cette vision-là qu'on a, nous, depuis l'intérieur. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en fait, quand on regarde vraiment pile dans le plan... on pourrait s'attendre à avoir une assez grande luminosité, plein d'étoiles, et en fait non, c'est tout sombre. Et le fait que ce soit sombre, ça vient de toutes les poussières qu'il y a un peu partout. Et donc toutes ces poussières vont éteindre énormément la lumière des étoiles. Alors elles vont l'éteindre surtout en lumière visible. Par contre, en infrarouge, les infrarouges vont passer très très bien à travers ces poussières. Donc si on faisait une image en infrarouge, ce serait assez différent. Et donc si on veut sonder le cœur, le centre de la galaxie, il faut regarder en infrarouge ou dans d'autres domaines de rayonnement, mais en tout cas pas en vie, parce que là on voit absolument rien du tout à cause de ces poussières. Donc on peut, en faisant un décompte d'étoiles, on regarde dans les différentes directions, on compte le nombre d'étoiles et puis on reporte ça sur une carte. On peut faire aussi le même type de travail avec des nuages de gaz, et comme ça on peut avoir une idée de la forme de la Voie lactée telle qu'on la verrait si on était à l'extérieur. Et cette forme, vous l'avez ici. Donc on a la Voie lactée, c'est une galaxie spirale avec une légère barre ici, vous pouvez voir. Et puis vous avez différents bras, donc le bras de Persée, le bras Sagittaire Centaure, le bras Norma, et puis un autre plus faible ici, et le Soleil est quelque part par là. Donc le soleil n'est absolument pas du tout au centre de la Voie lactée, il a une position complètement quelconque. Donc avec Copernic, la Terre avait perdu le centre du système solaire, enfin, ce qui était le centre du monde à cette époque-là. Pendant un certain temps, on a pensé que le Soleil était proche du centre de la Voie lactée. Alors ça, c'était en fait un effet de mauvais comptage d'étoiles. Si vous regardez autour de vous et que vous avez une distance de vision qui n'est pas très grande, en fait, vous allez regarder une toute petite partie de ce bras, par exemple. Et dans cette toute petite partie, en gros, les étoiles sont à peu près bien réparties. Et du coup, si vous regardez un peu partout, vous avez l'impression que vous êtes au centre parce que vous avez une répartition homogène autour. Et par contre, si vous élargissez un petit peu votre champ de vision, vous pouvez tomber sur des zones comme ça où il y a bien moins d'étoiles. Et donc, du coup, ça dessine une structure complètement différente. Donc pendant un certain temps, on a pensé que le Soleil était au centre de la Voie lactée, et en fait, non, absolument pas. Alors, comme tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il n'y a pas de choses fixes. Les étoiles ne sont pas plantées comme ça à une distance donnée du centre de la Voie lactée, et puis il n'y a rien qui se passe. Tout tourne autour du centre. Alors là aussi, on va reparler à plusieurs reprises assez longuement de ces histoires de rotation autour du centre de la galaxie. Donc le Soleil, lui, fait un tour en un peu plus de 200 millions d'années autour du centre de la Voie lactée. Alors, quelques chiffres maintenant, et puis on va voir là encore, comme on a pu faire les autres fois, qu'est-ce que ça recouvre ces différents chiffres. quel crédit est-ce qu'on peut apporter à cette distance, à ces valeurs de distance. Donc le diamètre, on trouve comme diamètre pour la Voie lactée 100 000 années-lumière. Donc je vous rappelle, le système solaire, on avait dit, les plus lointaines planètes qu'on connaît actuellement, donc c'est à peu près, on va dire, pour donner un chiffre rond, 10 milliards de kilomètres. L'extrême bord du système solaire, donc là où le réservoir de comètes, là où l'attraction gravitationnelle du Soleil commence à être comparable à la celle des autres étoiles, c'est à peu près une année-lumière. Donc une année-lumière, 10 000 milliards de kilomètres. Et puis là, on en est à des distances beaucoup plus grandes, c'est 100 000 années-lumière. Alors vous avez des petites... là encore, une échelle qui est mise pour essayer de se rendre un peu mieux compte. Donc si on met les choses à l'échelle de 1 cm pour une année-lumière, donc l'étoile la plus proche, Proxima de Centaure, est à donc, 4 années-lumière, 4 cm. Et la taille de la Voie lactée, c'est 1 km. Et on vous dit, à cette échelle-là, le système solaire, c'est 10 micromètres, donc c'est en gros un cheveu, même un peu plus fin qu'un cheveu. Alors, le nombre d'étoiles contenues dans la Voie lactée, ça aussi, on peut, par des comptages, on peut en avoir une idée assez précise, et c'est en gros 150 milliards. Donc la position du Soleil, oui, donc je vous disais, le Soleil tourne en à peu près 200 et quelques millions d'années, et il est à peu près à quelque chose comme 26 000 années-lumière du centre, et donc vous avez 100 000 années-lumière de ici jusqu'à ici. Alors oui, les années-lumière, je n'ai pas forcément insisté beaucoup là-dessus, il faut faire attention, ce n'est pas une mesure de temps, même s'il y a le terme « année » dedans, c'est vraiment une mesure de distance, c'est la distance qui est parcourue par la lumière en un an dans le vide. Donc si vous faites le calcul avec 300 000 km par seconde à quelque chose près pour la lumière, vous multipliez pas ça par le nombre de secondes dans une année, et ça vous donne, là encore, pour faire un chiffre rond, 10 000 milliards de kilomètres. Alors, là, ça vaut la peine de regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut déterminer les distances, parce que quand on commence à parler de années-lumière, milliers d'années-lumière, centaines de milliers d'années-lumière, on peut se demander la question, comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir ces distances-là. Alors dans le système solaire, c'est assez facile. On peut commencer par déterminer par exemple la position du Soleil ou ce genre de choses avec des mesures de distance en différents points de la Terre. Avec un peu de trigonométrie, on arrive, si on connaît la distance entre les deux points de la Terre, on arrive à avoir la distance du Soleil. Et puis avec les lois certaines lois de la gravitation, les lois de Kepler par exemple, en mesurant la période de rotation des planètes autour du Soleil, ou aussi on peut faire encore un petit peu de géométrie, on arrive à avoir des distances comme ça dans le système solaire. Alors après, quand on sort du système solaire, c'est plus tout à fait aussi simple. Les choses se compliquent un petit peu. Alors, pour les objets proches, on va voir ce que ça veut dire. C'est en gros quelques centaines d'années-lumière jusqu'à présent. On utilise la parallaxe. Donc la parallaxe, c'est le schéma qui vous est indiqué là. Donc on va observer une étoile à 6 mois d'intervalle, donc deux positions diamétralement opposées de la Terre sur son orbite. Et puis on va observer comment cette étoile comment la position apparente de cette étoile va se déplacer par rapport aux étoiles beaucoup plus lointaines, donc par rapport au reste du ciel. Donc là vous avez le petit schéma. Donc dans une première position, l'étoile que vous regardez, elle semble plutôt être proche de cette autre étoile lointaine, et puis dans une deuxième position, elle semble au contraire être de l'autre côté. Alors cette histoire de parallaxe, c'est exactement la même chose que ce qui se passe quand vous mettez un doigt comme ça devant votre tête, et puis vous fermez un œil et puis l'autre, et vous voyez votre doigt qui semble se déplacer par rapport au reste, au fond du paysage. Et c'est exactement la même chose. Là, ce qui joue les rôles de l'œil qu'on ferme alternativement, ça va être les deux positions de la Terre à 6 mois d'intervalle. Et puis, on va avoir le même phénomène d'objets qui se déplacent devant le fond du paysage. Alors, le problème, c'est que dès qu'on va s'intéresser donc à des étoiles, même les plus proches, elles sont déjà tellement lointaines que ce décalage qu'on voit en fermant un œil et puis l'autre est tout de suite très très faible. Alors, l'angle typique qui va intervenir pour les étoiles les plus proches, c'est un angle de 1 seconde d'arc. Donc je vous rappelle, quand vous faites un tour, vous avez 360 degrés, donc la seconde d'arc, c'est la même subdivision que l'heure en seconde. Donc 1 seconde d'arc, c'est 1 degré divisé par 3600. Donc 1 degré, c'est déjà pas très grand, 1 seconde, 1 degré sur 3600, c'est encore plus petit. Donc on vous donne la valeur approximative. Là, c'est à peu près l'angle sous lequel on voit une pièce d'un centime à en gros 4 km. Donc ça fait pas grand. Et donc cet angle qu'on mesure ici, cet angle, ce qu'on appelle l'angle de parallaxe, donc le décalage entre les deux positions d'étoiles, on a un décalage comme ça de 1 seconde d'arc, donc déjà pas très grand, pour une étoile qui se situe à 3,26 années-lumière. Et alors ça c'est une mesure de distance qu'on utilise très souvent en astronomie. On appelle ça donc le parsec. Donc c'est la distance à laquelle une étoile a une parallaxe de 1 seconde. Alors le problème que vous voyez tout de suite, c'est qu'on on a déjà dit à plusieurs reprises que l'étoile la plus proche, elle est à 4 années-lumière. Donc elle est déjà plus loin que ça veut dire que son angle de parallaxe va être plus petit qu'une seconde. Donc ça va pas être facile à mesurer. Donc pendant très très longtemps, en fait, on n'a pas pu mesurer de parallaxe parce que les instruments qu'on avait ne permettaient pas des mesures aussi précises. Alors ça a changé depuis quelques temps. Jusqu'à il y a en gros, on va dire, une vingtaine d'années, on avait la parallaxe de quelques étoiles, enfin même pas quelques dizaines d'étoiles, vraiment les plus proches. Et puis il y a eu une première révolution avec le satellite Hipparcos qui a été lancé au début des années 90, où là on a pu atteindre des parallaxes, des mesures de précision d'angle vraiment toutes petites. Donc on est arrivé à mesurer à 1 millième de seconde d'arc, c'est-à-dire, vous voyez ce qui est marqué ici, l'angle sur lequel on voit une pièce de 1 centime à 4000 km. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Et on est arrivé comme ça à mesurer la position précise de plus de 120 000 étoiles. Alors évidemment, comparé aux mesures qui avaient été faites avant, ça a amené à réviser un certain nombre de mesures de distance qui avaient été faites avant. Et ça, c'est pas sans répercussion parce que, justement, l'étalonnage des distances dans l'univers, ça se fait par pas successifs. Donc on commence par une méthode fiable et directe, donc les parallaxes. Et puis après, une fois qu'on a bien étalonné un certain nombre d'étoiles proches, des distances d'étoiles proches, approximation successive, on va avoir les distances d'étoiles un peu plus lointaines, etc. Donc si à la première étape, la mesure de parallaxe donc, qui n'était pas très précise jusqu'à Hipparcos, on a des erreurs, ces erreurs vont se répercuter jusqu'à toutes les échelles. Donc Hipparcos, une première grande étape importante. Et la deuxième étape, qui va venir très bientôt, donc d'ici 1 à 2 ans, Gaïa, donc le successeur d'Hipparcos. Donc là, on prévoit d'observer non plus à peu près 100 000 étoiles, mais 1 milliard d'objets. Et la précision, on va multiplier la précision par 100 par rapport à Hipparcos. Donc là encore, si on veut donner des chiffres, c'est une pièce de 1 centime qui est vue sur la Lune. Donc c'est vraiment minuscule, minuscule. Et si le lancement se passe comme prévu, il y a toutes les raisons d'avoir cette précision. Alors, pour savoir un petit peu jusqu'à quelle distance on va pouvoir mesurer, je vous ai dit, si on a une parallaxe de 1 seconde, ça correspond à peu près à 3 années-lumière. Donc si on a une précision qui est 1000 fois plus petite, en gros, on va aller jusqu'à à peu près, un peu moins de 3000 années-lumière, on va dire 1000 à 2000 années-lumière, donc pour Hipparcos, c'était ça. Et puis, pour Gaïa, où on gagne encore un facteur 100, on va atteindre quasiment donc 100 000, voire un peu plus, 100 000 années-lumière, voire un peu plus. Donc comme ça, on va pouvoir étalonner les distances de façon vraiment précise à l'échelle de toute la galaxie. Et ça va être vraiment une chose importante à faire, parce que, comme je viens de vous dire, tout l'étalonnage des distances en fait, repose beaucoup sur ces mesures précises de parallaxe. Alors, quand on veut regarder ce qui se passe un peu plus loin, il y a plusieurs méthodes, donc je ne vais pas toutes les passer en revue ici, mais ce qu'on utilise souvent, c'est des classes d'étoiles particulières, en particulier des étoiles pulsantes qui ont des caractéristiques bien définies. Alors il y a plusieurs types d'étoiles pulsantes, mais il y a un type qui est beaucoup utilisé, c'est ce qu'on appelle les céphéides. Donc les céphéides, c'est des étoiles géantes dont la luminosité et le diamètre varient périodiquement, et donc varient de façon très très régulière. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que la période de variation de la luminosité était directement reliée à la luminosité absolue de l'étoile. Et ce qu'on montre, c'est que plus la période est grande, donc plus la luminosité absolue de l'étoile est grande. Donc si vous avez une période, une céphide qui a une période de 5 jours et une autre qui a une période de 4 jours, celle avec la période de 5 jours, on sait qu'elle est plus lumineuse que celle de la période de 4 jours, et on peut dire aussi dans quel rapport sont les luminosités. Donc on va faire la chose suivante pour mesurer les distances. On va mesurer une période de ces fils, mesurer la période d'oscillation de la luminosité. Ça, c'est facile, enfin, facile entre guillemets. On mesure la luminosité à différents instants et puis on regarde tous les combien de temps la luminosité se reproduit de façon identique. Et comme on a la relation qui nous donne la luminosité absolue en fonction de la période, on va pouvoir déterminer la luminosité de cette étoile, de cette céphéide. Et puis après, on compare avec la luminosité qu'on voit, la luminosité apparente. Et en comparant la luminosité absolue et la luminosité apparente, on peut déterminer la distance. De la même façon que quand vous êtes en voiture la nuit, vous pouvez en gros estimer la distance d'une voiture, enfin une voiture avec l'intensité des phares. C'est exactement le même type de méthode. Alors avec ces céphéides, donc on peut aller bien plus loin que la Voie lactée. On peut comme ça étalonner des distances dans d'autres galaxies. Vous avez une série d'images ici, donc qui a été faite par Hubble sur la galaxie M100, où donc vous avez sur un tout petit carreau ici, vous avez un grossissement donc d'une céphéide qui a été repérée. Où on voit très bien la variation de luminosité, et donc on arrive comme ça à mesurer des distances jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'années-lumière. Alors dans le cours prochain, on verra comment est-ce qu'on peut faire quand on passe à des distances encore plus grandes, parce qu'on a des distances qui sont bien plus grandes que ça dans l'univers. Alors, on en revient un petit peu à la Voie lactée et puis le Soleil, et on va commencer par le voisinage du Soleil. Alors, je ne sais pas si c'est bien dit par tout le monde. Donc là, c'est toutes les étoiles qui sont pas trop proches, pas trop lointaines, pardon, du Soleil. Donc, vous avez une échelle ici de 10 années-lumière. Donc, 10 années-lumière, vous avez, je sais pas combien, une quinzaine, une vingtaine d'étoiles. Donc, je vous ai dit, très rapidement, les distances deviennent grandes dans l'univers. Hein, l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière. Bon, il y en a quelques-unes, vous voyez, qui sont à moins de 10 années-lumière, mais il n'y en a pas tant que ça. Et très rapidement, on va avoir des distances plus grandes. Alors là aussi, ça vaut toujours la peine de faire des choses dans lesquelles, enfin, faire des choses à l'échelle dans lesquelles on se rend un peu mieux compte. Donc pour regarder un petit peu le voisinage du Soleil, donc là encore, on se donne l'échelle 1 mm pour 100 millions de kilomètres. Donc la Terre qui est à peu près à 150 millions de kilomètres et 1,5 mm. La ceinture de Kuiper, donc 10 cm. Ceinture de Kuiper, donc c'était les objets type Pluton, etc. Donc les planètes les plus lointaines qu'on connaisse actuellement. L'étoile la plus proche à cette distance-là est à 400 mètres. Et donc ça veut dire qu'entre de 10 cm jusqu'à 400 mètres, il n'y a à peu près rien du tout. Et encore sur ces 10 cm, rappelez-vous ce qu'on avait dit sur le système solaire en particulier, il n'y a essentiellement rien du tout là non plus dans ces 10 cm, parce que sur ces 10 cm, le Soleil qui fait à peu près 1 million de kilomètres, donc 1 centième de 1 mm, ça fait vraiment pas grand-chose. Donc entre 10 cm et 400 mètres, à peu près rien du tout, et pourtant 400 mètres c'est l'étoile la plus proche. Et donc si on va, en ayant ce système solaire à une échelle qu'on arrive à peu près à se représenter, 10 cm, quelque chose comme ça, la taille de la Voie lactée, ça fait 10 000 km, donc en gros, la taille de la Terre. Donc tout ça pour dire que dans l'univers, il y a beaucoup de vide et pas grand-chose d'autre. Là encore, on verra si vraiment il n'y a pas grand-chose d'autre ou pas. Alors, les étoiles, si on revient un petit peu sur les images qu'on a pu montrer, quand on regarde, des choses comme ça, voilà, on a l'impression ici que les étoiles se regroupent le long des bras, par exemple. Et on pourrait penser que donc les bras sont en fait quelque chose de fabriqué en dur dans la galaxie, que ça tourne comme ça en même temps, qu'il y a une structure rigide des bras. Et en fait, les bras spiraux ne sont pas du tout quelque chose de rigide. Alors si ça ne peut pas être le cas, parce que si c'était le cas, à cause des vitesses de rotation des étoiles différentes aux différents endroits de la galaxie, très rapidement, ses bras s'enrouleraient, et puis au lieu d'avoir, dans le cas de la Voie lactée, mettons un tour à peu près, on va dire, un bras fait ici en gros un tour, très rapidement, donc les bras s'enrouleraient, et au lieu de voir des galaxies avec des bras qui font à peu près un tour, on verra des galaxies avec 20, 30, 50 tours, et comme c'est pas ce qu'on observe, c'est une indication que ces bras sont pas des structures fixes. En fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que ces bras sont des structures, sont des ondes de pression qui se propagent. Et ce qui va se passer, c'est que quand ces ondes de pression vont se propager, donc dans le gaz qui est dans la Voie lactée, alors enfin, j'avance un petit peu sur la suite de ce que je vais dire ensuite, mais en plus des étoiles dans la Voie lactée, il y a aussi des grands nuages de gaz. Donc quand ces ondes de pression vont arriver sur les nuages de gaz, ça va induire une compression de ces nuages et ça va déclencher la formation d'étoiles. Et les étoiles qui sont formées sont en général plus lumineuses que les étoiles jeunes sont plus lumineuses que les étoiles anciennes. Et du coup, cette surbrillance qu'on voit dans les bras, c'est en fait de toutes les jeunes étoiles qui sont formées. Alors, là encore, ces bras spiraux ont un temps de vie relativement limité. Et là encore, enfin, si on fait les calculs, on montre que ça ne dure pas si longtemps que ça. Donc il faut que de temps à autre, il y a quelque chose qui vienne un petit peu réamorcer le système de formation d'ondes de densité. Et donc par exemple, le passage d'une galaxie à côté ou de ce genre de choses va pouvoir réamorcer le mécanisme de formation et d'entretien du bras. Alors des étoiles, donc je disais, il y en a donc majoritairement dans le disque, mais il n'y en a pas seulement dans le disque, il y en a aussi dans ce qu'on appelle les amas globulaires, donc qui se regroupent dans une espèce de halo autour de la Voie lactée. Donc vous avez ici la répartition des amas globulaires connus de la Voie lactée. Donc le plan des bras spiraux, c'est quelque chose comme ça. Alors bon, c'est pas tout à fait une ligne aussi fine, mais donc je vous ai dit, la Voie lactée, c'est à peu près 100 000 années-lumière de diamètre. L'épaisseur du disque galactique dans lequel se baladent la plupart des étoiles, c'est quelques milliers d'années-lumière, donc c'est quand même assez fin. Et puis tout autour, donc, vous avez ces amas globulaires qui restent. Alors ces amas globulaires, en fait, c'est des restes de la formation de la galaxie, donc des étoiles très très vieilles. Et quand on regarde un petit peu, alors là, ça ne se voit pas très bien sur cette image, donc c'est un amas ici qui est assez connu dans l'hémisphère nord, c'est un des plus brillants de l'hémisphère nord. Donc quand on regarde ces amas, on voit c'est des images assez rouges avec des vieilles étoiles qui sont plus froides que les étoiles jaunes et bleues du disque. Donc ces amas, ils se répartissent dans un halo qui fait à peu près 160 000 années-lumière de rayon. Donc vous voyez, on parlait du chiffre de 100 000 années-lumière tout à l'heure pour la Voie lactée, et puis comme d'habitude, si on considère un peu tout ce qui peut rentrer pour fabriquer l'objet Voie lactée, on est obligé de réviser les distances, donc là on commence à parler de 160 000 années-lumière. Et comme pour tous les autres objets de la galaxie, les amas globulaires encore ne sont pas pointés à un endroit et puis ils passent leur vie comme ça à ne pas bouger. Ils ont des orbites autour du centre de la Voie lactée, et en fait ils ont le même type d'orbite que ce qu'une planète peut avoir autour du Soleil par exemple. Donc vous avez un exemple qui est dessiné ici.
Dans le plan.
Non, ils sont absolument pas du tout dans le plan. En gros, là, c'est à peu près, on va dire, de manière, ça sera parti à peu près de manière sphérique. Et ça, c'est pas valable seulement dans la Voie lactée. On a pu observer des galaxies pas trop lointaines dans lesquelles on peut dénombrer les amas globulaires. Et il y a exactement le même type de structure de ces amas globulaires qui se répartissent en halo autour du disque. Alors le gaz, donc j'en parlais il y a quelques instants, c'est une composante qui est importante. Alors importante même, en masse, ça paraît pas tant que ça, mais initialement encore, c'est des proportions qui ont varié pas mal avec l'âge de la galaxie, puisque au tout début, quand il n'y avait pas d'étoiles formées, tout ce qu'il y avait c'était du gaz, et puis au fil du temps, les étoiles se forment, et donc il reste de moins en moins de gaz. Donc actuellement, en termes de masse, c'est à peu près 10% de la masse de la Voie lactée qui se forme de gaz, et principalement sous forme d'hydrogène. Alors là encore, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir comme type d'hydrogène, donc une proportion un peu plus grande dans le passé. Alors cet hydrogène, on peut le trouver sous tout un tas de formes différentes, de températures différentes, etc. Donc là encore, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, je vais pas trop m'étendre, je vais plutôt passer sur d'autres sujets. Donc il manque un ici. Cet hydrogène, donc, vous pouvez le trouver sous forme atomique, donc un seul atome neutre. Donc pour des températures relativement chaudes, entre guillemets, pour le milieu interstellaire, moins 170, des densités relativement importantes. Alors ça peut 50 particules par centimètre cube, c'est assez important par rapport aux densités de matière qu'il peut y avoir entre les galaxies en particulier. Mais comparé à ce qu'on peut trouver sur Terre, c'est ridiculement petit, c'est bien bien plus faible que les meilleures vides qu'on sait faire sur Terre. Dans n'importe quel centimètre cube de gaz, d'air, c'est des milliards et des milliards de molécules que vous avez, et pas, enfin des milliards de milliards et pas 50 simplement. Donc même là encore, quand on commence à passer dans les grandeurs astronomiques, il faut faire attention, parce que tous les repères qu'on peut avoir par rapport à ce qui se passe sur Terre sont complètement chamboulés. Alors cet hydrogène, vous pouvez aussi le trouver sous forme moléculaire. Donc moléculaire, c'est-à-dire les atomes vont se grouper par deux pour former des molécules d'hydrogène, donc H2, et on le trouve en général sous cette forme moléculaire à des températures beaucoup plus froides, donc moins de 260, et par contre là, des densités plus grandes, 1000 particules par centimètre cube, et c'est surtout dans ces nuages d'hydrogène moléculaire qu'on va avoir la formation d'étoiles, et pas tellement pas dans les nuages d'hydrogène atomique. Alors là, vous avez une carte de répartition des nuages d'hydrogène atomique dans la Voie lactée. Alors ça, c'est pas une image qui se fait en visible, parce que l'hydrogène atomique comme ça, il n'est pas dans le visible, mais par contre, il émet en onde radio. Donc c'est une carte d'onde radio en longueur d'onde à 21 cm, parce que c'est une raie typique de l'hydrogène. Donc là encore, si on veut, on a déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais si on veut essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe, il faut absolument sortir du domaine visible et utiliser tous les types de rayonnement possibles. Parce que, par exemple, si on se contentait au visible, comme on a dit, le centre de la Voie lactée, on ne le voit pas. Cet hydrogène atomique, on ne le verra pas. Donc, il y a énormément de choses qui nous manqueraient si on se contentait de la lumière visible. Alors, ce gaz, on le trouve également sous forme ionisée. Alors, les ions, donc dans le cas qui nous intéresse, ici, ça va être des atomes auxquels on va avoir arraché un électron. Alors, les ions, c'est un atome soit qui a gagné, soit qui a perdu des électrons. Alors ici, donc comme je disais, ce qui nous intéresse, c'est des atomes qui vont avoir perdu des électrons sous l'effet du rayonnement des étoiles, donc à peu près à 10 000 degrés, et là encore des densités relativement élevées. Et un exemple typique, là encore, qui est bien visible en plus en ce moment, c'est la nébuleuse d'Orion. Ça se voit à l'œil nu, ça se voit encore mieux avec une petite paire de jumelles ou un télescope. Et vous avez donc tout un tas d'embryons d'étoiles jeunes et chaudes qui vont illuminer et ioniser tout le gaz alentour. Et puis, dernière chose également qu'on trouve, c'est du gaz sous forme de plasma. Donc là aussi, on a totalement dissocié les noyaux des atomes d'un côté et les électrons de l'autre côté. Et donc ce gaz est à très très haute température, 1 million de Kelvin. Et donc là, lui, par contre, il est plutôt réparti tout autour de la Voie lactée, avec une densité très faible, et c'est en fait des conditions qui ressemblent beaucoup à ce qu'on trouve dans la couronne solaire. Même type de température, même type de densité. Et donc c'est pour ça que ce gaz, c'est ce qu'on appelle, on parle de gaz coronal pour la Voie lactée, donc par référence à la couronne solaire. Et alors là encore, si on veut regarder un petit peu des histoires de distance, ce gaz coronal qui entoure la Voie lactée, on n'a pas des estimations très très précises de la distance, mais c'est en gros plus de 200 000 années-lumière. Donc là encore, par rapport au disque, c'est beaucoup beaucoup plus étendu que le disque lumineux d'étoiles. Alors il y a là encore, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire le détail de tout ce qu'on pourrait trouver dans la Voie lactée, parce que sinon, là, on pourrait y passer des heures, donc j'ai choisi d'insister plus sur d'autres choses. Donc on trouve aussi tout un tas de poussières, donc des petites poussières, des silicates, des choses comme ça, qui résultent de la mort des étoiles précédentes, hein, parce qu'au début de l'univers, donc, il y a principalement de l'hydrogène et de l'hélium, et au fur et à mesure de l'éclatement de supernova, par exemple, vous avez des éléments de plus en plus lourds qui vont être synthétisés, et qui, par exemple, vont former toutes ces petites poussières. Donc, et ces petites poussières, par exemple, qui obscurcissent complètement, enfin, du moins en lumière visible, le centre de la Voie lactée. Et puis, vous avez aussi également, comme dans la plupart des astres, un champ magnétique. Donc, il y a un champ magnétique qui est très très faible, mais qui a son importance quand même. Dans ce qui est processus de formation d'étoiles, là aussi, ce champ magnétique peut avoir de l'importance. Alors la suite, c'est, j'appelle ça la relation de mauvais voisinage, parce qu'il y a des relations assez houleuses entre la Voie lactée et ses voisines. Parce que évidemment, la Voie lactée n'est pas toute seule dans l'univers, et elle a un certain nombre de galaxies satellites. Donc vous en avez le plan ici, donc la galaxie est là. Alors il y a deux galaxies très connues satellites de la Voie lactée, c'est le Grand Nuage de Magellan et le Petit Nuage de Magellan, que bon, malheureusement dans l'hémisphère nord on ne le voit pas, mais... Si vous avez l'occasion d'aller dans l'hémisphère sud, ça se voit très très bien à l'œil nu, comme des espèces de petites taches un peu floues dans le ciel. Donc les deux nuages de Magellan donc, sont à peu près à un peu plus de 200 000, 250 000 années-lumière de la Voie lactée. Et donc ils sont, il y en a un ici et le deuxième, voilà, un ici et un ici. Et vous en avez tout un tas. Donc, c'est des galaxies qui sont beaucoup plus petites que la Voie lactée. On parle de galaxies naines. Donc, alors, je ne sais pas, pour ceux qui sont au premier rang, peut-être vous pouvez un peu mieux lire. Donc, enfin, naine, c'est dwarf en anglais. Donc, vous avez par exemple la naine du sextant, la naine du sagittaire, etc. Donc, vous en avez un certain nombre aussi, on va dire une dizaine en gros, qui gravitent autour de la Voie lactée. Et ça, c'est pas un phénomène propre à la Voie lactée. On a de très nombreux exemples de galaxies qui ont des satellites, enfin, ou de systèmes multiples de galaxies. Ça, c'est un exemple célèbre qui s'appelle le quintet de Stéphane, bah, parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 dans l'association. Il y a une galaxie donc, qui est la plus proche de nous, mis à part cette petite galaxie satellite même, qui est la galaxie d'Andromède, et qui, là aussi, si on regarde au télescope, on voit très bien une petite galaxie et satellite à côté. Donc ça, c'est ce système de satellites autour de galaxies importantes. C'est quelque chose de vraiment très répandu. Alors, jusqu'à... ça peut sembler étonnant, parce que ces galaxies semblent très proches de la Voie lactée. Hein. Je vous ai dit, le nuage de Magellan, on va dire 200-250 000 années-lumière. Si on passe à la galaxie d'Andromède, c'est 2 millions d'années-lumière, un peu plus, donc on passe tout de suite à 10 fois plus. Et malgré leur distance très proche de la Voie lactée, pendant très longtemps, on ne les a pas détectés parce que, justement, c'est des galaxies naines, donc très peu étendues, enfin, pas très peu étendues, mais avec peu d'étoiles et qui se détachent assez mal du fond du ciel. Donc, vous en avez quelques exemples ici. Donc, les nuages de Magellan, donc, je vous disais, c'est sans problème, ça se voit à l'œil nu. Par contre, vous avez ici donc, la galaxie naine du Sagittaire et puis la galaxie naine du Dragon. Et là encore, on arrive à peu près à distinguer la galaxie. Sur cette image-là, par contre, c'est déjà beaucoup plus flou. Alors évidemment, on ne se contente pas juste de prendre ces images ici et puis de dire « Ah tiens, il y a une galaxie ». Il y a d'autres études qui sont faites sur, par exemple, des estimations de distance des étoiles, des estimations de composition chimique de ces étoiles qui peuvent être différentes de ce qu'on a dans la galaxie. Mais, je me répète, mais malgré leur proximité, c'est vraiment pas une tâche facile du tout de détecter ces galaxies naines. Alors ces galaxies donc, vont rentrer en collision plus ou moins violente avec la Voie lactée. Et là encore, ça c'est quelque chose qui est très commun dans l'as de l'univers. Là encore, c'est un exemple célèbre qui s'appelle la galaxie des antennes, parce que ces deux galaxies du fait de leur interaction, on a l'impression qu'il y a des antennes qui poussent. Et donc vous avez pu le voir ici, il y a des simulations, ça repart au début, de ce qui se passe dans l'interaction d'une galaxie. Alors vous avez des instants où ça ressemble assez à ce qu'on voit à droite. Alors il y a tout un tas de choses qui vont se passer pendant ces collisions. Alors la première idée aussi, qu'il faut combattre quand on parle de collision de galaxies, collision c'est pas forcément un terme approprié. Parce que en fait, des collisions entre étoiles, il y en a à peu près pas. Étant donné la distance entre les étoiles des différentes galaxies, les deux galaxies peuvent se traverser sans qu'il y ait quasiment aucune étoile qui se rentre réellement dedans. Par contre, il y a tout un tas de choses qui vont se passer. Donc, un transfert de matière entre les galaxies. Donc, des étoiles qui vont passer de l'une à l'autre galaxie. Des étoiles, du gaz qui passe de l'une à l'autre des galaxies. Vous avez également des déformations des galaxies qui sont induites. On a par exemple des images de galaxies qui ont un disque complètement ondulé, voilé, parce que vous avez une galaxie à côté qui, du fait des interactions, a complètement tordu la forme de la galaxie. Vous pouvez donc, suite à ces effets, vous avez en général donc, des compressions de gaz, etc. Et de la même façon que les ondes de pression des bras spiraux vont allumer des flambées d'étoiles, de la même manière, ces interactions entre galaxies, du fait de la compression des gaz, vont là aussi faire redémarrer des flambées d'étoiles, faire redémarrer la naissance d'étoiles. Alors il y a tout un tas de scénarios qui sont possibles entre les galaxies, hein, suivant que vous avez une petite galaxie et une grosse galaxie, ou deux galaxies de même taille qui passent plus ou moins près l'une de l'autre. Vous avez plein de scénarios possibles. Enfin, il y en a un pareil qui est la fusion complète. Et là encore, on a des exemples où on peut trouver dans une galaxie deux noyaux très proches, donc signe qu'il y avait eu fusion en fait de deux galaxies.
S'il vous plaît, l'animation là, ça correspond à quelques millions d'années.
Ah oui, alors j'ai pas parlé du temps, mais c'est même plus que des millions. En gros, il faut plutôt compter en centaines de millions d'années ou enfin milliards d'années.
Oui, le temps des collisions, ça dure plusieurs millions, centaines de millions d'années.
Plusieurs centaines de millions d'années, oui. Bah oui, le problème, c'est la distance, quoi. Si vous prenez même des galaxies qui sont à une distance égale à leur diamètre de 100 000 années-lumière, on va dire, si les galaxies se déplaçaient l'une vers l'autre à la vitesse de la lumière, elles mettraient 100 000 années pour arriver l'une vers l'autre. Et comme elles sont très loin d'aller à la vitesse de la lumière, bah vous multipliez ça par autant de fois que votre vitesse est inférieure à la lumière et bah vous arrivez très rapidement à des centaines de millions d'années. Si on dit par exemple 100 000 ans à la vitesse de la lumière, si vous faites un millième de la vitesse de la lumière, ça vous fait 100 millions d'années. Et un millième de la vitesse de la lumière, c'est déjà 300 km par seconde, donc c'est quand même pas négligeable. Alors, dans la Voie lactée, donc, on a un certain nombre de ces effets qui sont observés. En particulier pour les transferts de matière, on a un très bel exemple hein, entre des transferts de gaz entre les nuages de Magellan et puis la Voie lactée. Et donc c'est ce qu'on appelle bah, le courant magellanique. Et là, vous en avez une image. Alors là encore, c'est pas une image en visible, c'est une image en onde radio. Donc vous avez donc, le petit nuage de Magellan ici. Et puis on voit très bien se détacher un courant de ces étoiles, un courant de gaz. On a aussi des courants d'étoiles qu'on peut mettre en évidence. Alors comment est-ce qu'on peut mettre en évidence les courants d'étoiles? Alors c'est pas là encore, si on avait énormément de temps devant nous, on pourrait voir les étoiles comme ça qui défilent, mais évidemment si c'est des processus qui prennent plusieurs millions d'années, c'est pas possible. Donc ce qu'on peut regarder par contre, ce qu'on peut mesurer, on peut quand même mesurer la vitesse des étoiles. Justement par effet Doppler, on en a parlé la fois dernière. Donc cet effet Doppler qui vous fait paraître les sons plus ou moins graves quand par exemple vous avez une voiture qui vient ou s'éloigne de vous. Vous avez le même type d'effet sur la lumière, donc vous pouvez comme ça mesurer la vitesse des étoiles. Et si vous trouvez que dans une zone vous avez toutes les étoiles qui ont la même vitesse dans la même direction, ça c'est une indication qu'il peut y avoir un courant d'étoiles. En général on ne se limite pas à ça. On regarde également ce qu'on appelle la métallicité, c'est-à-dire en fait la composition en éléments autres que l'hydrogène et l'hélium. Et là encore, si on voit qu'on a tout un groupe d'étoiles qui a une composition chimique assez différente de toutes les étoiles alentour, et qu'en plus elles ont une vitesse là encore qui n'est pas la même, c'est encore une indication forte qu'on a des courants d'étoiles. Et ces courants d'étoiles, il y en a tout un tas qui sont observés, qui sont connus. Alors le centre galactique maintenant, donc je vous en ai parlé, alors c'est important pour la raison suivante, parce que pour l'instant on a une forte idée de ce que c'est, même si ce n'est pas tout à fait confirmé. Donc je vous l'ai dit, pour l'observer, déjà la première chose, il faut que ce soit des observations ou en radio, ou en onde, radio, ou en infrarouge, et maintenant on sait faire également de l'imagerie en gamma. Alors ce centre galactique, ce qu'on sait, c'est qu'il a une masse énorme, et une masse énorme qui se concentre dans un tout petit volume. Donc la masse, c'est un peu plus de 2-3 millions de masses solaires. Et le volume, il est indiqué là. Vous avez, ça c'est une... Comment est-ce qu'on a pu déterminer cette masse? En fait, là encore, on a utilisé les lois de la gravitation. On a observé le mouvement d'étoiles autour de ce centre galactique. Alors là, par contre, c'est des choses qu'on peut faire, parce que c'est des mouvements qui se font sur quelques années. Donc, mouvement d'orbite sur quelques années, on est capable de remonter à l'orbite de ces étoiles autour du centre galactique, en observant à plusieurs années d'intervalle. Et puis, on mesure, là encore, on sait à quelle distance se trouve le centre galactique, donc on mesure la distance parcourue par l'étoile, le temps qu'elle a mis, et puis on peut déduire la masse centrale autour duquel cette étoile orbite, et on trouve que c'est quelque chose qui vaut à peu près un peu plus de 3 millions de masse solaire. Et ce 3 millions de masses solaires, c'est vraiment dans un volume qui est tout petit. Pour l'instant, on n'a pas la taille exacte, on a juste des limites supérieures sur la taille, on est limité par la précision des instruments. Donc ce qu'on sait, c'est que c'est un peu plus de 3 millions de masses solaires sont dans un volume qui est plus petit que la distance entre le Soleil et Mercure. Donc dans ce tout petit volume, il faut mettre plus de 3 millions de fois le Soleil. Et ça, pour l'instant, il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est les fameux trous noirs. Donc ces trous noirs, c'est quoi? C'est une concentration de matière qui est telle que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Si vous prenez par exemple la Terre, vous imaginez que vous lancez une pierre, donc si vous la lancez, elle va retomber. Vous la lancez un peu plus fort, elle monte et puis elle va finir par retomber. Et puis si vous avez des appareils un peu plus puissants, une fusée par exemple, et que vous lui donnez une vitesse assez grande, votre pierre ne va jamais retomber. Donc pour la Terre, la vitesse qu'on appelle vitesse de libération, donc vitesse à laquelle votre pierre va échapper définitivement à l'attraction terrestre, c'est 11 km par seconde. Et vous avez certains astres pour lesquels cette vitesse est supérieure à la vitesse de la lumière. Et ça oblige l'astre en question à retenir tout autour de lui, parce que, du moins jusqu'à présent on n'a pas de profondeur, il n'y a aucun objet qui peut aller plus vite que la lumière dans le vide. Donc ces objets qui ont une vitesse de libération supérieure à la vitesse de la lumière, il n'y a rien qui peut en sortir, même pas la lumière, donc c'est pour ça qu'on parle de trou noir. Donc le centre de la galaxie, c'est un trou noir. Donc c'est un énorme trou noir, oui. Voilà, donc là, c'est le mouvement de ces étoiles autour du centre galactique. Vous avez les années qui passent là. Donc, en gros, c'est sur une petite dizaine d'années. Et voilà, donc, comme je vous disais, on est arrivé à reproduire vraiment de façon très précise les trajectoires de ces étoiles. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les trajectoires ne suivent pas exactement les lois de la gravitation de Newton. En fait, elles suivent les lois de la gravitation, mais version corrigée par Einstein, la relativité générale. Alors, je ne vais pas trop m'étendre dessus aujourd'hui, j'en parlerai plus le prochain cours. Donc Einstein, au début du XXe siècle, 1907, donc, a produit une théorie qui inclut les effets dus à la vitesse de la lumière, enfin, à la limitation de la vitesse des corps à la vitesse de la lumière pour produire une nouvelle théorie de la gravitation. Alors, ce qu'il a montré, c'est que les lois de Newton ne sont pas fausses, simplement c'est une approximation qui est valable quand les champs de gravitation ne sont pas trop forts et quand les vitesses ne sont pas trop importantes, pas trop importantes, ça veut dire tant que les vitesses restent faibles devant la vitesse de la lumière. Et plus on va avoir des vitesses grandes, plus on va avoir des champs forts, et plus on va s'éloigner de ces lois de Newton. Et là, dans ce cas du centre galactique, où on a on est dans le cas où on s'éloigne assez nettement des lois de Newton parce qu'on a un champ de gravité très fort à cause de cet astre central. La trajectoire qu'on a reconstituée ici, avec cette estimation de la masse, ça correspond exactement. Les orbites suivies, c'est exactement ce qui correspond aux lois données par la gravitation d'Einstein et pas la version approchée de Newton. Alors, on en a aussi maintenant des exemples, des images dans les rayons gamma. Donc, rayons gamma, c'est les rayons très très énergétiques. Vous avez tout le spectre électromagnétique, donc les ondes radio, micro-ondes, etc., infrarouge, visible, ultraviolet. Donc, c'est tout des ondes de même nature. Donc, il n'y a pas de différence, par exemple, entre de l'infrarouge et de l'ultraviolet. Enfin, pas de différence de nature. C'est le même type d'onde. De la même façon que, par exemple, entre des sons et des ultrasons, vous n'avez pas de différence de nature. C'est la seule différence, c'est que les ultrasons ne sont pas perceptibles par l'oreille humaine, mais c'est le même type de choses. Les sons comme les ultrasons sont des ondes de pression qui se propagent dans l'air. Et de la même façon, les ultraviolets sont des ondes comme les ondes visibles, simplement l'œil humain ne peut pas les percevoir. Donc quand vous partez de radio, infrarouge, visible, ultraviolet, etc., vous allez dans des rayonnements de plus en plus énergétiques. Et les plus énergétiques qui existent, donc c'est les rayons gamma. Et maintenant, on commence à savoir faire des images de tout un tas d'objets astronomiques, mais en particulier du centre de la galaxie, en rayons gamma. Et là aussi, cette signature en rayons gamma, c'est quelque chose qui est nettement attaché au trou noir. Alors pourquoi c'est attaché au trou noir? Parce que même si le trou noir n'émet pas de lumière en lui-même, quand vous avez de la matière qui va être autour du trou noir, quand elle va arriver près du trou noir, elle va être énormément comprimée, chauffée, etc. Et du fait de cette compression et de cet échauffement, la matière qui arrive auprès du trou noir va émettre tout un tas de rayonnements, donc rayonnements énergétiques, en particulier des rayons X et des rayons gamma. Et là, vous avez donc une image, là encore, de ce centre galactique autour duquel on arrive à détecter maintenant les rayons gamma. Donc c'est encore une indication en faveur d'un trou noir central. Alors, problème de la masse manquante maintenant, parce que je vous ai parlé des courbes de rotation des galaxies, et on s'est aperçu, il y a relativement longtemps maintenant, un peu plus de 70 ans, qu'il y avait un problème avec la masse des galaxies qui était liée à la courbe de rotation. Alors, c'est quoi le problème? C'est le suivant. on peut déterminer la masse des galaxies de deux façons différentes. Une première façon, j'ai une image de galaxie, je compte les étoiles, enfin, ou plutôt on va dire j'estime la luminosité. Je sais que pour telle luminosité, il faut telle étoile, et que les étoiles ont en gros, en moyenne, telle masse. Donc, à partir de la lumière, je peux dire, voilà, la galaxie fait telle masse. Et puis, comme on arrive également à mesurer les vitesses des étoiles autour du centre galactique, on peut, grâce à l'effet Doppler, on peut, là aussi, en appliquant les lois de la gravité, dire, si j'ai telle masse à telle distance du centre galactique, c'est que je dois avoir... si j'ai telle vitesse à la telle distance du centre galactique, c'est que je dois avoir forcément telle masse dans la galaxie. Et puis, on compare les deux valeurs. Et c'est là qu'on a un gros problème, parce que, en gros, entre cette masse qu'on a détermine par la luminosité et cette masse qu'on détermine par la gravitation, il y a un écart entre 5 et 10, et c'est plus souvent 10 que 5. Et la masse lumineuse, donc la masse qui est visible par les étoiles, est à peu près 10 fois plus faible que ce qu'on peut déterminer par la gravitation. Et ça, c'est un réel problème. Il y a encore pas mal de débats là-dessus. Je vais en dire deux mots. Alors, voilà ce qu'on observe. Donc, pour les courbes de rotation, donc, vous avez ici la vitesse de rotation mesurée des étoiles en fonction de la distance. Donc, ce qu'on observe, c'est une courbe comme ça, donc qui commence à monter. Donc, c'est la courbe en pointillé. Et puis, ce qu'on observe, c'est la courbe en très-plein, donc qui monte et puis qui stagne en gros à une valeur à peu près constante. Et si on fait les calculs à partir de la répartition de masse déterminée par les étoiles, donc répartition de masse lumineuse, on a la courbe en pointillé, donc au début ça colle bien, et puis après ça marche vraiment plus du tout. On prévoit une diminution de la vitesse de rotation qui n'est absolument pas observée. Alors il y a une première chose qu'on peut se dire, c'est que il y a de la masse, s'il manque de la masse en gros, parce que d'après la gravitation ça nous dit qu'il manque de la masse, c'est peut-être parce qu'il y a des choses pas lumineuses qu'on n'a pas vues. Donc je vous ai dit par exemple, les gaz d'hydrogène atomique émettent pas absolument pas en visible, mais émettent beaucoup moins radio. Donc il y a peut-être tous des gros nuages de gaz qu'on n'a pas vus, il y a peut-être aussi tout un tas d'étoiles très très faibles qu'on n'arrive pas à détecter, des petites planètes, des choses comme ça en très grand nombre, tout un tas de choses qui pourraient expliquer cette différence entre la matière lumineuse et puis la matière détectée par gravitation. Alors il y a eu des programmes de recherche de cette matière justement, enfin, soit sous forme de gaz, soit sous forme d'étoiles très faiblement lumineuses. Donc on a fait en radio par exemple, on a fait des grandes observations sur l'ensemble du ciel pour essayer de détecter des nuages de gaz. Alors effectivement, on en a trouvé quelques-uns, mais pas du tout en quantité suffisante pour expliquer la différence. On a trouvé aussi des étoiles faiblement lumineuses qu'on appelle les naines brunes. Et là encore, on en a trouvé. Alors on les a trouvées, comment on les a trouvées, puisqu'elles ne sont pas lumineuses. Alors ces naines brunes n'émettent pas non plus en radio. On les a trouvées par effet de l'antigravitationnel. Souvenez-vous, on en a parlé la semaine dernière, quand vous avez une source lumineuse, et puis par hasard, il y a un objet qui passe pile entre vous et la source lumineuse. Là encore, c'est la théorie de la relativité d'Einstein qui nous dit ça. Vous avez un effet, donc pendant le temps de l'alignement parfait entre l'objet, la source et vous, vous avez un petit effet d'amplification lumineuse. Et donc on peut comme ça mettre en évidence des objets sombres. Objets sombres, mais qui ont une masse suffisante pour dévier les rayons lumineux. Donc là encore, on a fait des grandes mesures sur l'ensemble du ciel, où on a surveillé je ne sais pas combien de millions et de millions d'étoiles, et on a trouvé quelques-unes de ces naines brunes, mais là encore, en quantité très très nettement suffisante pour expliquer le facteur 5 à 10 fois entre les mesures de masse lumineuse et puis les mesures données à la gravitation. Donc on a encore un problème. Alors, problème qu'on peut résoudre de la manière suivante avec ce qu'on appelle la matière noire. Alors, qu'est-ce qu'on recouvre derrière le vocabulaire de matière noire? Alors, c'est justement pas la matière ici, là. La matière dont on vient de parler ici, donc ici qui est en fait de la matière ordinaire, des protons, des neutrons, des choses comme ça, mais sous une forme qui n'émet pas de lumière. Cette matière noire, c'est quelque chose de complètement différent. Alors, le point fort, c'est qu'en mettant la matière noire à peu près là où il faut, donc souvent c'est sous forme de, là encore, de grands halos autour des galaxies, qui s'étendrait sur la Voie lactée, c'est typiquement là, encore 200, entre 2 et 300 000 années-lumière autour de la Voie lactée, on peut arriver à expliquer ces courbes de rotation des galaxies, c'est-à-dire faire en sorte qu'en tenant compte de la masse de cette matière noire, la courbe calculée, au lieu d'être en pointillé ici, bah, suive à peu près bien la courbe des vitesses de rotation mesurées. Le gros problème, c'est que en fait, on n'a pas d'explication globale. C'est un peu au cas par cas pour chaque galaxie qu'il faut essayer de trouver la bonne répartition de matière noire pour expliquer la courbe de rotation. Donc ça, c'est jamais très très satisfaisant quand on n'a pas de loi générale, mais des trucs qui marchent un peu comme ça au cas par cas. Et le deuxième gros problème, c'est que pour l'instant, cette matière a encore jamais été détectée. Il y a tout un tas de théories là-dessus qui ont été faites. Donc des extensions, des théories de physique des particules qu'on connaît actuellement qui prédisent un certain nombre de nouvelles particules. Il y a plein d'expériences qui ont été montées pour découvrir ces nouvelles particules. Alors la difficulté de ces expériences, c'est que ces nouvelles particules prévues interagissent très très peu avec la matière. Donc du coup, elles sont très difficiles à détecter et le moindre petit signal parasite peut vous faire croire que vous allez détecter une particule alors qu'en fait c'est complètement autre chose. Donc vous avez toute une série de ces expériences qui sont installées souvent dans les tunnels routiers qui sont sous les montagnes, parce que de cette façon-là, vous êtes protégé par tout le rayonnement cosmique qui arrive sur la Terre, par toute l'épaisseur de roche que vous avez dans la montagne. Donc par exemple, vous en avez une expérience comme ça dans le tunnel du Fréjus, là, entre la France et l'Italie. Vous avez différentes expériences qui fonctionnent de cette façon-là. Alors malgré cette protection des roches, la partie n'est encore pas gagnée, parce que n'importe quelle matière que vous trouvez sur Terre est naturellement radioactive. Enfin, vous-même, vous êtes radioactif, vous avez en particulier, à cause du potassium qu'il y a dans vos os, vous émettez des radiations en permanence. Et donc, les matériaux même des appareils qui constituent l'expérience, eux aussi sont radioactifs, évidemment, et vont induire des signaux parasites qui vont donner l'impression qu'on peut avoir détecté ces particules de matière noire, alors qu'en fait, on ne les a pas détectées. Donc c'est un vrai travail d'essayer de se protéger de ce genre de choses, essayer de trouver des matériaux dans lesquels il n'y a pas le moins possible de contamination radioactive, essayer aussi de faire la différence au mieux entre ce signal de matière noire qu'on attend et puis tous ces faux signaux parasites, parce que malgré tout le soin qu'on peut prendre, ces faux signaux parasites sont bien plus importants que ce qu'on peut espérer comme vrai signal de matière noire. Alors pour vous donner une idée, en gros, les signaux, le nombre d'événements auxquels on s'attend, pour les expériences qui sont montées actuellement, c'est de l'ordre de, on va dire, 1 à 10 événements par an. Donc c'est vraiment pas grand-chose, et vous avez beaucoup, beaucoup plus de signaux parasites. Donc, pour en revenir à ce qui est indiqué là, le problème, c'est que ces expériences se tournent déjà depuis des années. Elles sont de plus en plus précises, et elles ont pour l'instant, absolument rien détecté. Alors vous avez également un autre type d'expérience, là complètement différent, autour des accélérateurs, puisque, comme je vous l'ai dit, vous avez des extensions des théories de physique des particules qui prévoient certaines particules qui pourraient expliquer la matière noire. Et jusqu'à présent, il y a, dans toutes les expériences qui ont été faites auprès des accélérateurs, il n'y a aucune particule détectée qui a les caractéristiques de la matière noire. Donc pour l'instant, alors je ne sais pas si le LHC là, au CERN qui vient de redémarrer pour aller les voir, mais jusqu'à présent, on n'a absolument rien trouvé. Alors il y a une autre possibilité, c'est en fait que la masse qu'on détermine par la gravitation n'est pas la bonne parce qu'on n'a peut-être pas forcément les bonnes équations de la gravitation. Alors ici, ce n'est pas le problème en fait tellement de la gravitation d'Einstein ou pas qui va jouer, parce que sur les distances qu'on est en train de regarder, plusieurs centaines, dizaines de milliers d'années-lumière, avec des masses finalement au bout de compte pas si importantes. On est plutôt dans le cas inverse d'Einstein, donc on est plutôt dans le cas de champs de gravité très faibles. Alors vous avez différentes manières de procéder. Il y a une théorie qui, pour l'instant, qui commence un peu à se développer, mais qui n'est pas encore très, très développée. C'est ce qu'on appelle la théorie monde, en anglais dynamique newtonienne modifiée. Alors, c'est quoi les ingrédients de cette nouvelle théorie? En fait, ça revient un petit peu sur les lois de la dynamique proposées par Newton. Donc, Newton, lui, a proposé que la masse n'est plus l'accélération, était, pardon, la force et l'accélération étaient proportionnelles. Donc l'accélération, c'est-à-dire le changement de vitesse. Donc si vous avez un changement de vitesse qui est important, ça veut dire que vous avez une force qui est plus importante. Et donc Newton a posé, a postulé la proportionnalité entre les deux. Alors jusqu'à présent, tous les calculs qu'on pouvait être faits avec cette proportionnalité entre force et accélération, ça marchait bien. En particulier dans le système solaire, ça marche vraiment très très bien. Bon, éventuellement avec des petites corrections dues à la relativité générale, mais ça marche vraiment très bien. Le problème, c'est le système solaire, comme je vous ai dit, c'est à peu près, ce qu'on peut mesurer facilement, c'est 10 milliards de kilomètres. Et on peut quand même légitimement se poser la question de savoir si, quand on passe à des distances qui ne sont pas 10 milliards de kilomètres, mais 100 000 années-lumière, en sachant qu'une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres, donc déjà 10 000 fois plus que le système solaire, est-ce que ça marche tout le temps ? Et donc, c'est un peu ça la philosophie de la théorie du monde. Donc, ça a été démarré il y a un peu plus de 20 ans donc, par un physicien israélien qui s'appelle Milgrom. Et l'idée, donc, c'est de dire la chose suivante. Donc, je vous ai dit, Newton donc, a posé la proportionnalité entre les forces et puis l'accélération. Et donc, Milgrom, lui, a proposé d'introduire une nouvelle constante fondamentale en physique. Alors, il y en a un certain nombre comme ça. Vous avez, par exemple, la vitesse de la lumière, qui est une constante fondamentale. Vous avez la constante de gravitation, qui permet de calculer la force de gravitation une fois que vous avez les masses et la distance entre deux corps. Quelques constantes fondamentales. Donc, Milgrom, lui, propose d'introduire une nouvelle constante, qui est une accélération. Et il propose la chose suivante. Donc, il dit, si, en fait, tant qu'on est à des accélérations supérieures à cette accélération qu'on va appeler à zéro ici, en fait, on retrouve les lois de Newton. Et puis, quand on est à des accélérations très inférieures à cette accélération fondamentale ici à zéro, les lois de Newton sont de moins en moins bien vérifiées, et on s'en écarte notablement, et du coup, du fait de cet écart notable aux lois de Newton, les masses qu'on peut déterminer en appliquant les lois de la gravité sont plus les bonnes. Et alors, il se trouve que la grandeur qu'il a donnée ici, ça correspond typiquement aux valeurs de l'accélération qu'une étoile peut avoir quand elle orbite autour du centre galactique. Et donc, c'est pour les valeurs où, justement, il commence à y avoir un désaccord entre la théorie et puis, théorie ici et puis la mesure. Pour l'instant, donc, c'est quelque chose qui est en cours d'élaboration. Il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille dessus, donc ça n'avance pas aussi vite qu'on voudrait. Un de ces points faibles de cette théorie, c'est que en fait, ça a été un peu fait justement pour expliquer ce problème de courbe de rotation des galaxies, donc où on a un désaccord flagrant entre les mesures et puis la mesure par la masse lumineuse et puis mesure par la gravitation. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'assise théorique profonde, mais c'est quand même, je pense, une idée intéressante. L'autre gros problème, c'est que c'est une théorie qui est extrêmement difficile à vérifier en laboratoire, parce que, comme je vous ai dit, donc ça s'intéresse à des accélérations qui sont très faibles, et c'est même tellement faible que quoi que ce soit que vous fassiez sur Terre, vous allez toujours être énormément plus grand que cette accélération fondamentale. Donc du coup, vous allez perdre tout ce que vous vouliez voir, c'est-à-dire l'écart à la loi de Newton, puisque dès que vous allez être un peu plus grand que cette accélération fondamentale, vous retrouvez la loi de Newton. Et sur Terre, quoi que ce soit qu'on fasse, en gros, on va toujours être très très supérieur à cette accélération fondamentale. Donc pour l'instant, c'est difficile à tester en laboratoire. N'empêche que il y a quand même un bon nombre de points forts à cette théorie monde. Donc là, vous avez des courbes qui ont été calculées. Donc, alors on ne voit pas bien la différence. Donc, vous avez les points ici, les ronds qui sont les mesures de vitesse de rotation dans quatre galaxies ici. Et puis, en très plein, qui est quasiment superposé avec les ronds, vous avez ce qui est calculé par cette théorie monde. Alors, le gros intérêt de la théorie monde par rapport à la matière noire, c'est qu'il n'y a qu'un seul paramètre dans cette théorie, c'est cette valeur A0, cette nouvelle constante fondamentale. Et une fois que vous avez mis cette valeur A0, vous n'avez plus rien le droit de toucher. Et donc c'est pas une explication au cas par cas pour les différentes galaxies. Ce qui va changer évidemment dans les galaxies, c'est la répartition lumineuse, mais bon ça c'est une observation qu'on peut faire précisément. Et donc une fois que vous avez fixé cette valeur de nouvelle constante fondamentale, là il y a 4 cas qui sont représentés, donc les 4 cas marchent très bien, mais ça a été testé sur tout un tas d'autres galaxies. Et donc avec un seul paramètre fondamental qu'on fixe une fois pour toutes, on arrive à reproduire de façon vraiment très très satisfaisante toutes les courbes de rotation de galaxies. et on arrive en fait à le faire même mieux que les théories de matière noire qui sont toujours un peu bricolées avec plein de paramètres qu'on bidouille pour faire en sorte que la théorie colle à la pratique. Donc ça c'est quand même deux gros avantages. Alors le problème c'est que, donc, comme je vous disais, pour l'instant cette théorie c'est en cours de développement. Donc il y a un certain nombre de choses qu'elle est encore pas capable d'expliquer. Une des difficultés qu'il y avait jusqu'à il y a une époque très récente, c'est que cette époque, enfin, cette théorie monde incluait pas les effets de relativité générale d'Einstein. Donc depuis quelques années, enfin 2 ou 3 ans maintenant, on commence à savoir faire ça. Et ça c'était l'étape nécessaire. Pour pouvoir parler d'évolution de l'univers en particulier, parce que là aussi il va y avoir d'autres contraintes très fortes sur cette théorie du monde pour savoir si elle est valable ou pas en observant l'univers à grande échelle, en observant justement la formation des structures, différentes choses. Et de tout ça, on en parlera un peu plus, pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Voilà, merci de votre attention.